Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, va débuter dans un instant. Et au menu, l'info du jour. Arène, plus de cours de récré vertes et non genrées et moins de publicité. Une interview pour annoncer Consonance, une soirée musicale pour fêter les 40 ans de la Maison internationale de Rennes. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion du décryptage de la dernière enquête de Splende sur le syndicat de la FNSEA. Et puis deux recommandations pour jeudi, Arctique et Dinguerie de la Terre. Bienvenue dans l'Arène. L'émission d'information locale, vous le savez, elle débute toujours avec l'info du jour, une ou parfois plusieurs, que je sélectionne parmi ce qui se raconte dans l'actualité locale. Aujourd'hui, quand les politiques publiques changent le visage de la ville, il y a d'abord, à l'échelle de la ville de Rennes, la volonté de faire évoluer les cours de récréation. Depuis 2020, ce sont déjà 10 cours qui ont été rénovés. Objectif, favoriser un meilleur partage des usages, notamment entre filles et garçons, mais aussi végétaliser les espaces dans un contexte de réchauffement climatique. Parmi ces cours, on découvre dans le télégramme celle de l'école de Clotot, on est dans le quartier Bréquigny. 700 mètres carrés supplémentaires ont pu être végétalisés sur une surface totale de 4700 mètres carrés. Plusieurs aménagements ont aussi été pensés pour, je cite, faire renouer les enfants urbains avec la nature. Il y a un potager, un poulailler, un labyrinthe fruitier, une prairie ou encore un espace sensoriel et même une cabane en hauteur. Un modèle qui va continuer à être déployé ailleurs dans la ville, notamment sur les écoles Jean Rostand pour les Longchamps, Camille Claudel sur le secteur Fougères-Sévigné et André Chédid pour le quartier Villejean. L'autre évolution, elle va s'opérer durant l'été dans le cadre du nouveau règlement local de publicité intercommunale. Il a été adopté en 2022. Ce sont 260 grands panneaux publicitaires qui vont disparaître dans les rues de la ville. Il s'agit de ceux qui sont sur des formats de 8 à 12 mètres carrés, les plus grands quoi. Ils seront remplacés par des panneaux plus petits, mais pour certains carrément retirés. L'objectif, il faut le préciser, c'est de limiter la profusion de publicité dans l'espace public, appel à la consommation, économiser de l'énergie aussi en ce qui concerne les 30 panneaux numériques du centre-ville qui seront remplacés par des publicités papier ou mieux encore, pour certains, par des œuvres d'art. Après cette info du jour, on passe à l'interview de cette émission. Evan Rouxelin et Carolina Ayane, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, Evan, vous êtes chargée du projet des 40 ans de la Maison internationale de Rennes. C'est l'événement qu'on annonce aujourd'hui lors de cet échange. Vous faites partie des équipes de cette structure, de cette association qui en regroupe plein d'autres installées en centre-ville de Rennes. Et Carolina, vous dirigez le chœur Mélanka qu'on retrouvera sur scène pour fêter cet anniversaire. Ce sera vendredi 21 juin en soirée. On va détailler le programme. Il faut dire aux auditeurs qui ne la connaissent pas que la Maison internationale de Rennes, elle est donc installée sur le quai Chateaubriand. Elle rassemble de nombreuses associations depuis 1984. Le projet a évolué en 40 ans. Comment est-ce qu'on peut raconter cette aventure aux auditeurs ?
Du coup, la Maison internationale de Rennes, c'est bien sûr un espace qui est dédié à la diversité culturelle et aussi à l'échange interculturel et à la solidarité internationale. Et c'est vrai qu'on rassemble du coup aujourd'hui près d'une centaine d'associations internationales de Rennes. Et toutes ces associations vont agir dans le domaine des droits humains, bien sûr des échanges interculturels, mais aussi de la solidarité internationale.
Est-ce qu'il y a des petits nouveaux ? Il y a des associations qui continuent à rejoindre la Maison internationale de Rennes ou c'est une équipe bien constituée qui ne bouge plus vraiment ?
Oui, il y a vraiment un socle avec des associations qui restent depuis très longtemps, mais c'est vrai qu'il y a toujours des associations tous les ans qui s'ajoutent à la liste.
Alors, en jetant un petit coup d'œil à l'histoire de la Maison internationale de Rennes, donc il faut réexpliquer qu'en 1984, au lancement, c'était d'abord le projet mené par des associations de jumelage, puis à la fin des années 90, sont venues adhérer des associations de l'Office social et culturel rennais, élargissant un peu le champ d'action de ce projet associatif. Comment est-ce qu'on peut raconter un peu ce qui se passe entre les murs de cette Maison internationale de Rennes aujourd'hui, en 2024? Il y a une équipe salariée qui coordonne le projet et beaucoup d'associations avec plein de passages, des événements, des réunions qui se déroulent là-bas.
Du coup, on a vraiment notre équipe professionnelle qui du coup s'occupe d'aider les autres associations dans leurs projets. C'est vrai qu'on a beaucoup de réunions avec elles. On a beaucoup de réunions de coordination pour les aider dans leurs projets. Et c'est vrai qu'à côté, on organise aussi nos événements. Et donc, que ce soit des expositions, des conférences, des projections. Et on a vraiment ces deux domaines-là, en tout cas.
Et on peut ajouter que l'un des temps forts donc, de la Maison internationale de Rennes, les auditeurs y ont peut-être déjà participé, c'est le Festisol, le Festival des Solidarités, qui a lieu tous les ans ailleurs sur le territoire national, mais donc aussi ici à Rennes, et animé par la MIR, la Maison internationale de Rennes. Beaucoup de pays représentés parmi les associations de la MIR. J'ai noté la Tunisie, la Chine, le Togo, Madagascar ou encore l'Iran. Et donc on arrive à cet anniversaire, 40 ans pour la Maison internationale de Rennes. Vous avez concocté un programme d'événements qui en fait court jusqu'à la fin de l'année, c'est ça? Il y aura d'autres choses?
Oui, c'est ça. Donc, on a tout d'abord donc vendredi 21 juin Consonance, donc lors de la fête de la musique, où on va avoir quatre associations qui vont se rassembler pour plusieurs concerts. On va aussi avoir du coup en fin d'année 40 portraits. Donc, ça va être une rétrospective sur les personnes qui ont contribué donc au développement de la MIR. Et du coup, ça va permettre aux Rennais de pouvoir découvrir tous ces visages. Ensuite, on a aussi un théâtre forum de l'association Watusita qui va aborder le thème des conflits intergénérationnels sur l'engagement écologique. Et en fin d'année encore, donc le mercredi 25 septembre et le mercredi 27 novembre, donc on va avoir deux apéros MIR. Donc ça va être l'opportunité pour les participants de débattre sur tout d'abord l'Italie et ensuite l'Amérique latine, de découvrir ces cultures internationales.
Le programme complet donc des 40 ans de la Maison internationale de Rennes, il est à retrouver en ligne sur le site mir-rennes.fr. Vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. L'événement qui arrive vendredi 21 juin, il s'appelle Consonance. Comment est-ce que vous avez choisi ce mot-là pour cette soirée ?
Du coup, Consonance, ça a été choisi par les associations participantes et c'est vraiment pour montrer qu'il y a une coordination au niveau des sonorités, au niveau des sons musicaux, des différentes associations et différentes cultures qui viennent pour un message de paix à l'international en réaction donc, à l'actualité internationale qui se déroule en ce moment.
Parmi ces associations qui seront présentes, il n'y a pas longtemps sur cette antenne, on avait échangé avec l'association Guillard.
Je m'appelle Sepasar Nouri, je suis seul à mer, j'ai 23 ans, je suis seul à ce que je suis dans le Gimcoin. Et ça fait 6 ans que j'habite à Rennes. Je suis le représentant de l'association Guillard. Guillard à la base était une association avec une unité familiale. Parce que la famille Sadr Nouri, on a pas mal fait des actes culturels déjà en Iran, malgré toutes ces répressions, toutes ces complicités. Quand j'étais adolescent, parce que là j'ai 23 ans, mais quand j'étais adolescent, je me souviens que mon père, il organisait un grand festival pour les mineurs, pour la musique classique iranienne, ce qui était très unique à l'époque. Et c'était une question d'éducation pour les mineurs, parce que c'est eux qui sont la prochaine génération. Et donc, on avait une société qui ressemblait un peu à notre association ici, avec qui on organisait beaucoup de concerts, festivals, expos, on publiait des livres, des CD, tout ça. Et là, on est venu en France, on s'est dit, peut-être vaudra mieux ramener notre expérience d'avant et continuer ici ces actes culturels pour présenter la culture iranienne à des Français, parce que c'est un peu différent de ce qu'on voit dans les médias.
Il faut dire que donc vous êtes arrivé en tant qu'étudiant en musique en 2018 ?
En fait, d'abord, je voulais aller en Autriche parce que je voulais faire de la musique classique. Là, je ne veux plus faire de la musique classique. Depuis que je suis venu en France, je suis beaucoup plus intéressé à jazz, à musique orientale. Parce que quand on s'émigre, on revient plus vers nos origines, vers nos racines pour chercher d'où on vient. Surtout quand on vient dans un âge adolescent, ça, c'est un peu moins habitué hein, parce que notre personnage n'est pas totalement formé ni là-bas ni ici. Du coup, des fois, on vient un peu à l'origine pour ces questions qu'on se pose. Et en effet, moi, je suis venu à l'âge de 17 en 2018 pour faire mon bac d'abord parce que j'avais pas le bac. Ensuite, j'ai enchaîné avec une licence en musicologie à Rennes 2. Et là, depuis septembre dernier, j'ai arrêté les études. Au moins pour un an, je vais peut-être reprendre un master plus tard. Mais l'idée pour moi, c'était de travailler un peu plus cette année, de présenter ces projets avec Guillard, ainsi que faire mes actes musicaux, mes concerts, mes créations à côté. Parce que finalement, à la base, je suis musicien, pianiste et compositeur. Donc, il faut alterner entre tout ça. Et finalement, tout vient d'un même point, c'est l'art et c'est de la culture.
Et je me tourne maintenant vers Carolina Ayan, donc directrice de ce chœur qui s'appelle Mélanka. On vous retrouvera sur scène vendredi 21 juin lors de la soirée Consonance. Ça se passera donc à la Maison Internationale de Rennes de 19 à 23 heures. Ce chœur, en fait, il fait partie d'une association dont vous êtes membre, on la présente.
Oui, c'est ça. En fait, la chorale Mélanka, c'est une partie de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine qui a été créée suite à l'invasion de la Russie à grande échelle en Ukraine. L'association, elle s'est créée en février 2022, mais il y avait des gens qui étaient aussi là pour raconter le problème de l'Ukraine ici beaucoup avant. Par exemple, de la situation de l'année 2014 quand la guerre vraiment a commencé, parce que c'est pas que 2022, et suite quand ça commençait vraiment d'être plus grave, les gens qui étaient là, ils s'organisaient, ils ont décidé de créer l'association pour aider aux Ukrainiens et pour aussi faire un échange interculturel entre l'Ukraine et la Bretagne, parce que malheureusement, pas beaucoup de Français et tous les autres étrangers connaissent pas beaucoup de l'Ukraine, et c'est pour ça on pense que c'est très important maintenant de parler et représenter notre culture aussi. Et du coup, par exemple, en avril, j'étais coordinatrice d'un concert qui était dédié à Volodymyr Ivasyuk. C'est un compositeur ukrainien. On l'avait organisé à la Mir. Voilà. Et c'était un compositeur qui était vraiment un phénomène en les années 1970, qui était tué par KGB, voilà, juste parce qu'il était trop populaire. Et du coup, on remercie à l'Amir pour d'être là et pour participer au projet comme ça, parce que c'est vraiment très important. Je pense que c'est intéressant de découvrir d'autres cultures de l'autre pays aussi. Et le choral, il était organisé à la fin de 2022 par les amateurs, les femmes déplacées qui étaient là. Au début, c'était juste l'idée d'apprendre les enfants à chanter les chansons traditionnelles de Noël, de l'Ukraine. Et du coup, c'est reparti qu'en fait, tous voulaient chanter. Et moi, je suis arrivée en chorale un petit peu plus tard. Et maintenant, oui, je suis dirigeante, je s'occupe tout ce qui est présentation de la chanson, je s'occupe tout ce qui est communication avec les autres associations ou l'organisateur des concerts. Et la chorale, on chante, la plupart des chansons, c'est les chansons traditionnelles, folkloriques, lyriques, mais aussi, des fois, on chante les chansons contemporaines. Voilà, on pense que c'est vraiment agréable qu'on a possibilité de montrer une petite partie de notre pays, de notre tradition et de notre valeur aussi.
Vous êtes combien dans le chœur Mélanka aujourd'hui?
On est à peu près 15. Après, il y a des gens qui viennent, qui réparent. On a aussi des Français parmi nous qui apprennent ukrainien, qui franchement fascinaient de la culture et qui voulaient aussi participer avec nous dans le concert et qui veulent apprendre un petit peu plus de nous et de notre pays.
On imagine que comme l'alphabet n'est pas le même, il y a un travail qui est plutôt oral pour que les Français puissent interpréter les chants.
Oui, des fois c'est un petit peu compliqué, surtout si c'est une chanson où il faut chanter très rapidement et on a une des comme ça. Des fois c'est pas facile, mais les gens, ils arrivent.
J'aimerais bien vous demander à vous, alors quand est-ce que vous êtes arrivé en France? C'était avant, on va dire, l'élargissement de la guerre en Ukraine début 2022. Et puis aujourd'hui, quel lien vous gardez avec l'Ukraine? On imagine avec un œil un peu sur ce qui s'y passe encore aujourd'hui. La guerre est toujours en cours.
Oui, je suis arrivée en France en octobre 2019, du coup juste un petit peu avant des Covid, des confinements, et ma mère toujours habite là-bas, à ma ville natale qui s'appelle Dnipro, c'est seulement 5 km de la frontière de la guerre, du coup on essaie de communiquer au plus souvent possible pour demander comment ça se passe, est-ce que tout va bien. Après, à Dnipro, la situation elle est à peu près calme, mais quand même, je suis toujours inquiète. Hier, j'ai appris qu'un garçon avec lequel j'étais à l'école, il a décédé à la guerre.
Il faut rappeler certains chiffres pour que les auditeurs aient les informations. Donc d'une guerre qui est toujours en cours avec 18% du territoire qui est occupé, 6,4 millions de réfugiés donc hors du pays, mais en tout 10 millions de personnes déplacées pour cette guerre qui s'est intensifiée donc depuis le début de l'année 2022. Ici, on a donc l'association Solidarité Bretagne-Ukraine qui à la fois organise des événements de solidarité sur le territoire et puis qui aussi organise une aide humanitaire sur place.
Oui, oui. L'association organise souvent les donations. Il s'occupe de tout ce qui est l'aide humanitaire, tout ce qui est l'aide pour les soldats, pour l'armée aussi. Et ça se passe souvent un samedi. Vous pouvez regarder ça sur notre page Facebook, Solidarité Bretagne-Ukraine. Et très souvent, on fait les annonces pour que les gens puissent faire les donations s'ils veulent.
Pour revenir au cœur, Mélanka, qui est donc une composante de l'association Solidarité Bretagne-Ukraine, comment vous vous sentez quand vous chantez dans votre semaine? Ça vous apporte quoi? Et est-ce que le chant a toujours été dans votre vie à vous ou c'est peut-être un engagement plus récent?
Ah oui, je chante depuis mon enfance. Après, je ne suis pas tout à fait une chanteuse professionnelle, mais c'était toujours quelque chose avec moi. Peut-être les années le plus professionnel de ma vie, c'était vraiment les années quand j'étais à l'université. J'étais dans une groupe d'étudiantes et voilà, là j'ai appris beaucoup de choses pour moi, comment d'être sur la scène, comment il faut chanter vraiment correctement. Et quand je suis arrivée en France, à cause de confinement, à cause de barrières de langue, et en ce moment-là, il n'y avait pas des Ukrainiens, et je ne savais pas où je peux me lancer avec tout ce que j'avais. En fait, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai pas chanté presque, et là j'ai retrouvé une chorale. Franchement, c'était quelque chose d'incroyable que je pouvais donner et apprendre les autres de tout ce que je sais. Et là, c'est vraiment une partie de ma vie. On a aussi une chef de chorale qui s'appelle Yevgenia Gintoft. Elle est vraiment chanteuse professionnelle d'opéra. Du coup, on espère qu'elle va faire une surprise aussi le vendredi. Elle s'occupe de tout ce qui est technique des vocales. Moi, je s'occupe plutôt de tout ce qui est le côté artistique et présentation. De toute façon, les Ukrainiens, c'est un peuple qui aime chanter. On chante quand on est triste, on chante quand on est heureux, quand on a un événement très important dans notre vie. Peut-être c'est pour ça qu'on a presque 16 000 chansons traditionnelles, vraiment, qui puissent occuper tous les événements de vie de chacun, toutes les saisons aussi, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui racontent les traditions de tout ce qui se passe en différentes saisons de l'année.
D'où le nom du chœur.
Oui, c'est ça, parce que le nom du chœur Melanka, c'est en fait une fête de rencontre de le printemps. Et du coup, c'est un petit peu aussi un nom philosophique, on va dire, parce que pour les Ukrainiens, maintenant, on dit que le printemps, il n'est jamais arrivé à cause de la guerre. Et du coup, dans nos cœurs, c'est toujours hiver, c'est toujours février de 2022.
Et l'attente du printemps et de la renaissance.
On attend vraiment le printemps, toujours.
Là, on a envie d'entendre à quoi ça ressemble, un chant ukrainien, si les auditeurs n'en ont jamais entendu. Vous avez accepté de chanter un refrain.
Je ne sais pas si vous allez attendre ça à le concert, parce qu'on n'a pas forcément préparé cette chanson. Mais oui, je peux essayer. La chanson s'appelle « Oyu Vushnevomu Sadu ». C'est une chanson lyrique de l'amour. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав.
Merci Carolina Ayan pour ce moment, cet instant chanté. Vous dirigez le chœur Melanka qu'on retrouvera sur scène vendredi 21 juin pour fêter les 40 ans de la Maison Internationale de Rennes. Il y aura d'autres associations autour du chœur Melanka, des associations donc, qui adhèrent au projet de la Maison Internationale de Rennes. On les cite rapidement, Evan.
Donc on va retrouver l'Orchestre des Jeunes de Haute-Bretagne tout d'abord. Aussi on va retrouver Cholem et Guillard. Donc Cholem, une association de culture juive, et Guillard, une association de culture iranienne.
Ils vont chacun donner leur concert, leur performance, mais ce qui est original, c'est qu'à la fin, il y aura une création collective. On peut essayer de donner des éléments sur ce à quoi ça va ressembler, ou on garde la surprise entière.
En tout cas, la création collective a été dirigée par Sepas Sadrenouri, donc de l'association Guillard. Et du coup, il a fait en sorte que toutes les chorales de chaque association puissent se rassembler autour de cette création. Mais je ne vous en dis pas plus, on va garder la surprise.
C'est à voir et à écouter vendredi 21 juin de 19 à 23h à la Maison Internationale de Rennes. L'événement s'appelle Consonance, on ne l'a pas dit mais il est gratuit. Le détail de la soirée est à retrouver en ligne sur le site mir-rennes.fr. Il y aura donc d'autres propositions pour fêter cet anniversaire jusqu'à la fin de l'année 2024. Je vous représente tous les deux Evan Rouxlin, donc chargée du projet de cet événement, là, des 40 ans de la Maison Internationale de Rennes, et Carolina Ayan, directrice du chœur Melanka, qu'on retrouvera donc sur scène vendredi. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci, merci à vous.
Ласкрунах ты, хай розі лютвани радісний сміх. Ла-ла-ла-ла-ла.
Smerichka avec le titre Vodograi sur Canal B. J'espère que j'ai bien prononcé ce titre puisqu'il était dans un alphabet qui m'est inconnu. C'était le choix musical de Carolina qu'on vient de recevoir en studio. Elle dirige un chœur que vous retrouverez sur scène vendredi pour fêter les 40 ans de la Maison internationale de Rennes. Et ce titre ukrainien qu'elle a choisi, il date de 1972. Vous venez de l'entendre dans La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Un programme à écouter du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi sur canalb.fr, où vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts réalisés par des salariés, mais aussi par de nombreux bénévoles. Allez, on poursuit l'émission avec une rediffusion. C'est une interview qui est passée dans cette émission le 7 juin dernier. Marianne Kerfridin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante basée du côté de Nantes et vous êtes l'une des autrices de la dernière enquête de Splend, notre média d'investigation breton et indépendant. Le lobbying agricole de la FNSEA à la loupe, c'est le titre de cette enquête qui a été publiée à la fin du mois de mai et toujours à découvrir en accès libre sur le site Splend, splend.org. On redit avant de se lancer dans ce travail d'enquête que vous êtes donc journaliste indépendante, que vous faites d'autres choses le reste de l'année et que vous avez par exemple signé assez récemment un documentaire qui est toujours à voir à certains endroits en ligne, on en dit un mot ?
Oui, c'était une grosse enquête pour Arte sur Ikea, le seigneur des forêts, ou devrais-je dire l'ogre des forêts, hein, qui dévore un arbre chaque seconde. Et voilà, c'était mettre en lumière le modèle et dénoncer le modèle Ikea de fast furniture qui met toujours plus de meubles sur le marché et qui, du coup, consomme énormément de bois.
Donc ça, c'est pour ce documentaire Ikea, le seigneur des forêts, réalisé et diffusé sur Arte, qu'on peut toujours voir en ligne, notamment dans une version commentée sur la chaîne Twitch d'Arte, en compagnie de Salomé Saké. Sur le sujet de l'agriculture française, j'ai vu que vous aviez déjà signé un documentaire il y a quelques années pour une émission sur une chaîne du service public. Ça, c'était en 2020. Depuis, il y a eu des choses qui se sont passées. Le secteur a été marqué par un mouvement social important en début d'année. Et il y a un acteur qui en est sorti gagnant, c'est le sujet de votre enquête, on le présente ?
Oui, alors il s'agit de la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire en France, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, effectivement, il y a eu un mouvement de colère assez spontané des agriculteurs en janvier-février. Et c'est un mouvement qui est parti plutôt du sud, plutôt de l'Occitanie. Et il se trouve que la FNSEA a été un peu débordée par ce mouvement parce qu'il n'en était pas à l'initiative, mais que le syndicat a vite repris le contrôle et s'est imposé, comme il arrive toujours à le faire, comme l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics.
Alors le gouvernement français a déjà accédé aux principales demandes du syndicat sur des questions de stockage d'eau, sur la question des pesticides et puis aussi avec des exonérations fiscales à la clé, même si la loi d'orientation agricole est toujours en discussion à l'Assemblée nationale au moment où on se parle. Le cœur de votre enquête, c'est en fait la publication des mandats qui sont multiples de plusieurs figures clés de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Quel temps vous avez consacré à cette enquête qui, il faut le dire, vous ne l'avez pas réalisée seule, vous étiez accompagnée d'Héléna Debré qui est aussi journaliste ?
Oui, absolument. En fait, il s'agit d'une enquête collaborative avec un média qui s'appelle Lighthouse Reports. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, les collaborations entre médias indépendants et médias européens. Donc là, on a travaillé avec des Belges, avec des Polonais, des Italiens, des Allemands. Et en gros, l'idée, c'était de, avant les élections européennes, de faire une enquête conjointe sur les syndicats agricoles en Europe et de montrer que finalement, si ces syndicats revendiquent représenter tous les agriculteurs, c'est pas exactement le cas. Et nous, spécifiquement à Splend, on s'est intéressé à quatre figures, dont deux figures bretonnes de la FNSEA, pour montrer en fait comment ce syndicat arrive à maintenir son pouvoir sur la politique agricole française et aussi européenne, hein, il faut le dire, en justement verrouillant un peu tous les leviers de pouvoir. C'est-à-dire que la force de la FNSEA, c'est bon, d'abord d'être élu quand même démocratiquement dans les chambres d'agriculture françaises, mais c'est aussi grâce à ses postes, c'est-à-dire ces postes qu'il obtient grâce aux chambres d'agriculture, mais qu'il obtient aussi en tant que syndicat majoritaire, ça permet en fait finalement de verrouiller tous les leviers de la politique agricole française en étant placé aux bons endroits pour faire du lobbying et puis peser sur les décisions qui sont prises par le gouvernement.
Vous vous êtes donc intéressé à quatre figures de la FNSEA. Le plus connu de ces quatre hommes, qui se trouve être celui qui cumule le plus de mandats, eh bien c'est sans doute le président, en fait, qui a été mis en lumière lors du mouvement social en début d'année.
Oui, il s'agit d'Arnaud Rousseau, hein, qui est un grand céréalier d'Île-de-France et qui a été élu président de la FNSEA, je crois, c'était l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une figure qui n'est pas anodine, hein, puisque c'est effectivement un grand céréalier. Et puis aussi, c'est le patron du groupe Avril, hein, comme l'était avant lui Xavier Belin, hein, qui est un ancien président de la FNSEA. Et c'est vraiment, Avril, c'est un énorme groupe agro-industriel. Et donc, on s'est posé la question, enfin nous, on a voulu montrer tous les mandats qu'exerçait Arnaud Rousseau, mais c'est vrai que cette figure du syndicalisme agricole français, beaucoup s'y sont intéressés en disant est-ce qu'il peut vraiment représenter tous les agriculteurs et notamment les éleveurs en étant à la fois patron de syndicat et à la fois patron d'un énorme groupe agro-industriel, quoi.
On précise que le groupe Avril a son siège situé tout près de Rennes et que c'est un groupe industriel qui est spécialisé aujourd'hui dans les huiles de table. Au-delà d'Arnaud Rousseau, on découvre avec votre enquête donc sur la FNSEA à la loupe, on découvre d'autres figures, Thierry Coué, secrétaire général adjoint, qui est lui éleveur de porc, André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et qui se présente comme un agriculteur énergiculteur, donc en plus de faire du lait et puis du porc, il est aussi, il s'intéresse à la méthanisation et au photovoltaïque sur son exploitation. Il a récemment, enfin c'était il y a quelques années, mais reçu la Légion d'honneur. Et puis Jérôme Despet, numéro 2 de la FNSEA, lui viticulteur. Ils ont, selon les cas, entre 9 et 22 mandats cumulés et sont donc présents dans de nombreuses institutions et organes de décision. Ça va de la santé publique à la surveillance de la qualité de l'air et de l'environnement, à la gestion de parcs naturels, mais aussi des risques industriels. Tout ça, officiellement, en fait, ça se fait au nom de la co-construction des politiques publiques.
Oui, alors, cette co-construction, elle n'est pas toujours assumée, même si Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était au congrès de la FNSEA et a clairement dit « je fais avec vous ». Hein, ça, c'est quelque chose que les syndicats opposés ont toujours critiqué. Hein, c'est la co-gestion de la politique agricole française entre le syndicat majoritaire et le ministère de l'Agriculture. Moi, quand j'avais réalisé cette enquête sur la FNSEA il y a 7 ans pour le magazine Pièce à conviction, j'avais interviewé Dominique Bussereau qui m'avait raconté une anecdote vraiment savoureuse en me disant qu'à l'époque, c'était Jean-Michel Lemétayer qui était président de la FNSEA et qu'il m'a dit, j'avais reçu la visite, donc c'était avant d'être ministre de Jean-Michel Lemétayer, et j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche. Et effectivement, après, il a été choisi comme ministre de l'Agriculture. Et quand son mandat s'est terminé, Jean-Michel Lemétayer est arrivé dans son bureau et a dit « Dominique, est-ce que tu veux rester ministre ?» Donc, ça en dit long quand même sur le pouvoir de la FNSEA sur la nomination des ministres de l'Agriculture. Voilà.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une forme de lobbying ? Dans votre enquête, Arnaud Clugerie, donc de l'association Eau et Rivières de Bretagne, il y répond par l'affirmative. Est-ce que le grand public ne sait peut-être pas, c'est qu'on retrouve aussi des personnalités de la FNSEA à la direction de titres de la presse agricole, que ce soit pour le magazine Terra, en tout cas jusqu'en 2022, moment de la revente, mais aussi pour ce groupe de presse Réussir, qui édite pas moins de 50 titres sur le territoire national. Il y a donc la presse, mais aussi des événements comme le Salon de l'agriculture. Donc c'est le numéro 2 de la FNSEA qui vient d'être élu président de la société qui est propriétaire de cet événement. On pourrait se demander en quoi c'est problématique. C'est que finalement, il y a quoi ? Il y a une vision un peu hégémonique diffusée auprès d'une partie des agriculteurs français ?
En tout cas, les détracteurs de la FNSEA, c'est ça qu'ils disent, et y compris d'ailleurs des journalistes indépendants qui travaillent sur les questions agricoles, hein, qui se plaignent finalement qu'il reste très peu de titres complètement indépendants du syndicat majoritaire. Et pour certains, qui sont toujours indépendants, disent qu'ils ont des difficultés à travailler, qu'ils sont parfois entravés dans leur travail de journaliste. Et effectivement, la question que ça pose aussi, c'est dans la mesure où ils contrôlent aussi la presse agricole, ils contrôlent les événements. Vous avez parlé du Salon national de l'agriculture, mais il y a aussi le SPAS hein, qui se déroule à Rennes, qui est un événement très très important en matière d'élevage. C'est quel message ils font passer en fait. Et même si la FNSEA continue à dire qu'il y a de la place pour toutes les agricultures, ce que moi j'ai pu constater, et d'autres hein, journalistes qui ont travaillé sur la question, comme Nicolas Legendre par exemple, avec son livre « Silence dans les champs », c'est qu'ils portent quand même une vision exportatrice de l'agriculture, donc une vision plutôt productiviste. Et quand on voit ce que la FNSEA a obtenu récemment en matière de méga-bassines, donc de rétention d'eau, ou même de la pause dans le plan éco-phyto sur la réduction des pesticides, on voit bien vers quoi ils tendent. Et même s'ils disent pas d'interdiction sans solution, qu'ils vont dire l'agroécologie a toute sa place, on voit bien que dans la réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi.
Alors, face à ces constats, si on souhaitait peut-être rééquilibrer la situation et atténuer une forme de domination de ce syndicat qui, on le découvre avec votre travail, n'est en fait représentatif que d'un quart des agriculteurs si on prend en compte l'abstention qui est très forte lors des élections professionnelles, eh bien on pourrait imaginer une évolution du mode de scrutin à ces élections professionnelles. Les prochaines sont prévues début 2025 et c'est un moment où il se joue beaucoup de choses. Bon, a priori, c'est pas ce qui... Enfin, l'évolution qui sera réclamée par notamment des députés de gauche, ce n'est pas ce qui se profile pour le moment.
Oui, alors effectivement, un syndicat comme la Confédération paysanne, hein, qui est opposé à la FNSEA, ils disent que le mode d'élection, de scrutin du collège des exploitants agricoles au sein des chambres d'agriculture favorise celui qui arrive en tête et donc favorise la FNSEA parce qu'il y a une sorte de prime à la majorité. Donc par exemple, la Confédération paysanne va pouvoir faire un bon score en termes de pourcentage, mais finalement avoir très peu d'élus dans les chambres d'agriculture. Donc eux, ça fait longtemps qu'ils réclament un changement du mode de scrutin et effectivement, ils sont soutenus par plusieurs élus politiques. Mais ce qui se prépare là en coulisses, ce serait un décret qui favoriserait grandement le syndicat majoritaire en termes de financement. Et ça, effectivement, pour le coup, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui sont des syndicats qui n'ont pas toujours les mêmes idées, qui ne défendent pas forcément la même vision de l'agriculture, là, ils sont d'accord. Et le MODEF, qui est un plus petit syndicat, les trois sont d'accord pour dire si ce décret passe, ça va tuer les syndicats minoritaires parce que l'argent, les subventions publiques vont aller majoritairement à la FNSEA. Pour l'instant, on ne sait pas ce que devient ce décret. On avait évoqué le fait qu'il puisse être promulgué en juillet. On n'a pas de nouvelles, mais effectivement, s'il était promulgué, ce serait un coup dur pour les syndicats minoritaires.
Une dernière question, donc dans cette enquête qui est retrouvée en ligne sur le site splande.org et qui nous parle du lobbying agricole de la FNSEA passé à la loupe de votre travail là, journalistique. Plusieurs fois, donc la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ne souhaite pas, répondre à vos questions pour alimenter un peu là votre travail. Même si on a quand même les mots d'un des acteurs, je ne sais plus sur quel sujet, peut-être avec André Sergent, je crois, oui. Non, ou Thierry Coué. Mais il y a quand même souvent la carte du silence qui est jouée.
Oui, alors nous, on a été étonnés, c'est vrai, de ne pas avoir de retour de la FNSEA qu'on a sollicité avant la publication de notre article. Hein. On a respecté le contradictoire. Par contre, il faut quand même souligner que André Sergent et Thierry Coué ont volontiers répondu à nos questions et avaient des arguments pour se défendre. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, on sait en tant que journaliste que quand on s'attaque à un syndicat aussi puissant, qui a des liens très forts avec l'agro-industrie, moi, pour vous donner un exemple, quand j'ai fait ce documentaire il y a 7 ans pour Pièce à conviction sur France 3, la FDSEA du Cantal m'a attaqué en diffamation. Voilà, ils m'ont intenté un procès, ce qu'on appelle des procès bâillons, hein, parce que je suis journaliste indépendante, donc préparer un procès, ça me prend du temps, ça a un coût pour la société de production qui doit prendre en charge l'avocat. Ils avaient attaqué aussi 2 agriculteurs qui témoignaient dans mon film. Alors, heureusement, j'ai gagné ce procès haut la main et j'en suis ravie. Mais c'est vrai qu'ils n'hésitent pas, quand ce que les journalistes font ne leur plaît pas, à attaquer en justice.
On vous représente, Marianne Carfridin, vous êtes journaliste indépendante et donc l'une des autrices de la dernière enquête de Splend, ce média d'investigation breton indépendant, le lobbying agricole de la FNSEA à la loupe. C'est à lire toujours donc en accès libre sur splend.org, ça a été publié fin mai. Et on rappelle que les dons des lecteurs sont toujours les bienvenus pour que Splend continue à mener ce travail nécessaire pour une information éclairée auprès des Bretons et des Français. Merci beaucoup.
Merci à vous. One disco track to save the world. Wake up, Mr. Clown. Time to get up, lay your round. Hands up, make your show. One disco track to save the world. I'm in a good mood. Disco's good. We're in a good mood. Disco's good. When you're sad and low. One disco track to save the world. This morning's track back like cats and birds. My words didn't act, one song rebirth. One real impact for the universe. But the groom's attack, I wanna be the first. I wanna give a smack, trying to make it burst. I wanna make it dancing, make sadness swing. I wanna find the ring, who's keep on dreaming. With a hand got wings and a hand got a hammer. Turning up my Facebook for no more drama. I'm getting on my super bed, take my super slipper. Take a super breakfast, taste of glitter. My head like a flipper, like a old gold digger. That's why I do my sport these way, all liquor. The pick comes close, kicker, there's so many roads. All things considered. Can you feel it? Can you feel the vibe?
AT avec le titre Remedy sur Canal B. C'était une nouveauté musicale sélectionnée par Yann Barbotin, notre programmateur à la radio. Un titre qu'on retrouve sur l'album Jiggle. Ce sont tout 10 titres. C'est sorti le 19 avril chez Swap Music. 10 titres qui forment le premier album pour ce sextet rennais qui mêle disco, funk, électro et hip-hop. Vous venez de les entendre sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale. Alors Canal B, cette année, elle fête 40 ans de radio libre. Et pourvu que ça dure, on a concocté pour fêter ça un programme d'animation à vivre jusqu'à la fin de l'année, à l'antenne mais aussi dans l'espace public. Et dimanche prochain, le 23 juin, tout l'après-midi, vous pourrez nous retrouver à la capitainerie des petits bateaux pour un après-midi radiophonique au bord de l'eau. Il y aura aussi sur place une braderie culturelle, un tournoi de pétanque et puis beaucoup de choses à se mettre dans les oreilles. Le détail est à retrouver en ligne sur notre site canalb.fr. Avant de se quitter, qu'est-ce qu'il nous reste ? La recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi des conseils lecture, podcast ou documentaire. Aujourd'hui, on annonce deux rendez-vous à vivre jeudi. D'abord au pôle associatif de la Marbaudet dans le quartier Maurepas. À partir de 16h, il y a les Dingueries de la Terre qui clôturent leur programmation. Les Dingueries de la Terre, c'est un parcours d'écologie populaire imaginé par plusieurs associations, notamment le syndicat Front de Mer. Et jeudi 20 juin, c'est Myriam Baf Fou qui sera l'invité d'une rencontre, une militante et autrice d'un livre, Des paillettes sur le compost, c'est le titre, où elle explore notamment un sentiment de honte. Vous pourrez en apprendre plus en la rencontrant directement jeudi. Également au programme sur place, des jeux pour les petits et les grands, la visite du jardin de Jamal dans le quartier, une cantine et un temps festif qui nous amèneront jusqu'à tard en soirée, jusqu'à 22h. Deuxième conseil de sortie, c'est une conférence, l'Arctique territoire d'extraction de l'Occident. Une question qui sera posée jeudi à 18h à l'espace d'exposition L'Instantané. On est dans la maison des associations à Rennes. Une façon de prolonger l'exposition Fjord, anatomie d'un socio-écosystème. C'est son titre. Une proposition de Vincent Grison. Il est responsable des expéditions Arctic Lab. Et la conférence du même jour, en plus d'une visite de cette exposition en compagnie de Vincent Grison, ça c'est à 17h30. La conférence, elle sera, elle, animée par l'anthropologue Anatole Danto. Et on nous promet une exploration des socio-écosystèmes côtiers nordiques du côté du Groenland et des îles Féroé entre enjeux d'extraction des ressources, questions de décolonisation et emprise humaine sur l'environnement. Passionnant. C'est terminé, une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative, à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.